Paris. Nous étions à la fin du congrès de Julian Josas, en 37.
Oui.
Avec la découverte un peu de Mounier.
Oui.
Et votre divergence avec Mounier.
Oh, elle a commencé très tôt.
Vous le sentiez que...
Pour les raisons que je vous ai données, les trois raisons.
Alors, quelles sont ces trois raisons?
Les trois raisons, rappelons-les. La première, c'est le fait que le problème posé concernait surtout la société catholique, si vous voulez, que ma foi, ce n'est pas le mien, ce n'était pas le mien. Le second, c'est que les groupes pour Mounier n'étaient qu'un moyen de diffusion de la revue.
De sa revue.
De sa revue.
Sans véritable autonomie, finalement.
Ah, ah. Et je dois dire que d'ailleurs, la direction que nous avions prise n'avait rien à voir avec les préoccupations de Mounier, quoi. Si vous voulez, la direction que j'avais donnée
au groupe de Bordeaux.
Si vous voulez, cette préoccupation d'entamer une réflexion sur l'énormité du changement qui était en train de se produire.
Oui.
Et alors la troisième raison, c'est ça précisément, le fait que pour nous l'important, c'était la prise de conscience de la nouveauté incroyable, quoi, du changement de la société moderne.
Déjà, vous, dans les groupes bordelais, vous aviez une réflexion structurée, cohérente.
Eh bien, elle commençait à l'être.
Elle commençait à l'être.
Si vous voulez, d'abord avec cette priorité, qui est... D'ailleurs, je dois dire que j'avais du mal à communiquer, parce que chez moi, elle était vivante, vraiment spontanée, et que dans mon environnement, ben, ça n'avait pris que la forme, si vous voulez, du... La littérature bucolique, par exemple. Ou alors, l'exception remarquable de Huxley. Parce qu'il faut se rappeler que ça, je me suis étonné de l'ignorance du mouvement écolo en ce domaine, c'est que le précurseur, c'est Huxley. Quoi. Avec d'autres. D'ailleurs, il y a Wells à sa façon, il y a toute une, si vous voulez, toute une tradition d'interrogation, même Vigny, si on remonte au 19e, quoi. On pourrait faire toute une histoire. Quoi. Ou même, je ne sais pas, la vie d'un homme que tous ces replis dans les îles perdues du Pacifique, comme Stevenson, vous voyez, ou bien Gauguin pour la France. Mais c'était un courant souterrain, parallèle, si vous voulez, qui n'a commencé à se formaliser que surtout, je trouve, c'est vraiment Huxley, quoi, Aldous Huxley, avec le meilleur des mondes.
Qu'est-ce que vous reprochez, dans le fond, à Mounier? C'est-à-dire, dans son rapport au politique, une sorte d'irréalisme, de naïveté, parce que défendre le catholicisme dans une société modernisée profondément, c'est-à-dire travailler par la culture de masse, la modernité, les sociétés communistes, les sociétés aussi des années 30 fascistes, d'encadrement, est-ce que Mounier est réaliste?
Non, je dirais qu'il est... Il se trompe par opportunisme, si vous voulez. Ce qui a été très marqué chez Mounier, et qui me paraît dans la tradition catholique, c'est cette... instinct tenace qui porte à ne pas rompre avec son époque. Être présent au monde moderne. C'est pour ça qu'il a été présent successivement à Pétain et à l'époque de complaisance stalinienne au lendemain de la guerre. Il a été présent, c'est ça, Mounier, je crois. Et ce qu'il y a de très amusant, il dénonçait le catholicisme non doyant de son Église, mais lui était tout à fait de ce type aussi. Vous savez, avec une pensée un peu tournicolante, vous savez, on voit un aspect, qu'on voit l'autre, on cherche comment s'accommoder. Quoi. Alors que les admirateurs de Mounier, qui correspond à tout ce courant catholique de gauche qui a triomphé au lendemain de la défaite d'Hitler, est, si vous voulez, il n'est pas du tout critique, je trouve.
Il n'est pas critique, et puis il y a ce livre, La peur du... La petite peur du XXe siècle, si qui pour vous est le contresens absolu.
C'est un contresens parfait. Je trouve que, d'une façon générale, si la peur devenait panique et mauvaise conseillère, la peur de la mort est au contraire une sagesse des profondeurs. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'il y a la peur de la peur, si j'ose, qui est la pire, et alors qui fait qu'on tourne le dos et que l'on n'a plus peur.
Qui le mène après Hiroshima, après les camps nazis, après une destruction quand même technique et massive, oui, et volontaire, bon, qui le mène à un aveuglement,
oui, Mounier. Je suis persuadé, par exemple, que Mounier aurait certainement redécouvert le problème écologique. Le jour où l'écologie est devenue à la mode, mais Mounier aurait été là. C'est oui, ça, Mounier, je crois.
Alors, c'est à la fois ça, et c'est en même temps, peut-être, une question finalement, j'allais dire un passéisme, une sorte de ressassement, de répétition, de redondance du problème de l'Église, de sa réaction, ouais, de sa puissance sociale, et du rapport non pas entre la personne et l'individu, et la vie et la société, mais entre la personne et l'individu, bon, et l'Église, sa communauté, son éternité, et le rapport à la...
Si vous voulez, Mounier, oui, sur le plan religieux notamment, se pose un problème, celui, si vous voulez, d'une Église que ma génération a pu imaginer, parce qu'elle l'a vécu, qui est profondément engagée à gauche-droite, autoritaire, il faut voir ce que c'était. Hein. Je me vois dans un taxi avec le futur archevêque de Rouen, qui était alors un curé bordelais, et qui m'enjoignait de me convertir naturellement devant la grandeur des œuvres de l'Église. Je lui dis, c'est précisément ces œuvres qui m'empêchent de me convertir. Il faut se rendre compte, c'est pour ça que ma critique de Mounier ne doit pas faire oublier, si vous voulez, le problème qui était, mais problème à courte vue, si vous voulez, qui était réel pour un catholique. Mais moi, ce n'était pas mon affaire.
C'est pas votre problématique.
Ah non, moi c'était... Et c'est un problème, il faut le plus, qui s'est résolu de lui-même, si vous voulez. L'autorité de l'Église, elle est nulle. Les curés aujourd'hui, ce sont de pauvres clochards. J'ai envie de leur donner deux sous, ouais, en leur procurant, je ne sais pas, une petite foi athée quelconque, politique ou autre. Ils sont gémissants, ils sont d'une amabilité, vous savez. Ah, ils ne veulent pas vendre leurs marchandises. Je ne vais pas faire venir le pasteur Maury, hein, parce que lui, il est protestant, c'est tout à fait ça.
C'est pas vrai.
C'est, si vous voulez, l'illusion c'est d'arriver en pleine crise, si vous voulez, de la société traditionnelle, alliance du trône,
mais non, plus bon,
social ou politique, et de l'autel, au moment où précisément, la ruée de la modernité va tout faire éclater.
Cette modernité, elle prend quand même des formes diaboliques ou séduisantes au niveau des masses, dans les cultures de masse, des fascismes et du communisme. Est-ce que vous avez une réflexion critique par rapport, j'allais dire, à cette modernité massive de la culture de la propagande, de l'embrigadement, du triomphe de l'État, à travers ces leaders faussement charismatiques et totalitaristes. Bon, en dehors de la réaction de l'Église, il y a la modernité politique massive, communiste et fasciste. Alors, est-ce que vous avez une réflexion déjà critique des années, disons, 34, 35, 33 à 38,
oui,
sur ces phénomènes?
Une raison très profonde, si vous voulez, c'est que le vieil adversaire, je crois, de toute spiritualité personnelle, c'est ce qu'on pourrait étiqueter, très sociologiquement, la religion. Et que ce que j'ai très tôt saisi, je crois, et d'ailleurs ça s'est traduit par mon livre L'État, si vous voulez, c'était le caractère sacré de la sacralisation. Tandis que la religion se désacralise, la politique se sacralise.
Se sacralise, si vous voulez. Et prend ses formes à travers la propagande.
Ah, ça me fait penser à De Rougemont, le texte qu'on
a lisé. Ah, je pense admirablement. Je vous signale que le plus beau témoignage de la solitude du chrétien, du véritable chrétien, hein, en face de, on peut dire, du sacré collectif, c'est le texte de Rougemont présent à un meeting d'Hitler à Francfort. Il est admirable.
Quand il écrit.
Admirable. Admirable, pas du tout. C'est très bien décrit, hein. Mais c'est surtout admirable de sincérité, de profondeur d'analyse. Parce que ce qui montre, si vous voulez, c'est la misère profonde de l'individu qui est seul en face des communions de ce genre.
Que ce en soit, face dans une foule absolument magnétisée et qui se et sent vraiment exclu, misérable, et qui ne peut pas
C'est un autre infini, l'infini social, quoi. Et évidemment, je pensais en faire d'ailleurs une exégèse là, pour cette réunion de Barcelone en son honneur, parce que je crois que c'est ça l'origine de tout, que ce soit la réflexion sur la libération de l'Église, de l'État, et en même temps la nécessité d'une société, d'une politique qui soit au contraire authentiquement celle de la liberté. C'est la source, c'est la racine. Celui qui refuse est impuissant à passer par ce stade de défi et de solitude et nul. Il ne fera rien de fécond. Le texte de Rougemont, alors vraiment, c'est un texte fondamental.
Autre phénomène de cette modernité que par rapport à laquelle vous avez une révolte individualiste et personnelle.
Attends, est-ce qu'on peut évoquer un point? La position de Rougemont, elle est fondamentalement chrétienne.
Elle est chrétienne.
Et sur ce plan-là, vous la partagez complètement?
Je la partage pas au titre de chrétien, je la partage au titre d'une foi, si vous voulez, qui est la mienne. Qui n'est pas dans des symboles extérieurs, dans des masses, dans les œuvres d'une collectivité puissante.
Oui, il y a une autre source de destruction moderne qui a été la machine, la guerre, la vie mécanisée. Alors, je voudrais que vous nous précisiez votre rapport avec l'œuvre, par exemple, de Aron
Dans
Dieu, le cancer américain, d'abord la révolution nécessaire, le cancer américain. Est-ce que vous avez lu ces ouvrages et qu'est-ce que vous en avez retiré dans les années 35, 36, 37? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Si vous voulez, je partage une grande partie de cette analyse. Je l'ai lu, le cancer américain. J'ai lu, je crois, à peu près tout ce qui était publié dans ce sens.
Au moment où ça sortait,
à l'époque, avant la guerre.
Et avant-guerre.
Mais, si vous voulez, ma réaction n'est pas, une fois de plus, provoquée par des livres, mais par les films américains que je voyais. Si vous voyez. Pour moi, ce qui fait d'ailleurs que très vite, ma réaction n'a plus été celle d'un nationaliste français en face de l'impérialisme américain. L'Amérique, c'est tout bêtement mon avenir. C'est ma société, elle commence chez moi, avec les autos qui commencent à envahir la rue du Palais Galien. Alors, si vous voulez, toujours on en revient à cette espèce de différence. Je crois qu'elle est importante dans ma pensée. Hein. C'est le film américain, ça me faisait vivre en Amérique, là, les films noirs, vous savez.
Mais vous êtes d'accord avec la pensée d'Ordre Vaux, de ce courant finalement, qui met l'accent sur la mécanisation du monde, la bureaucratisation, sur, j'allais dire aussi, le poids de la machine en tant que mécanisme en tant que prothèse, en tant que poursuite de le, du corps humain, de, qui va déshumaniser le système collectif et qui va se répéter, quel que soit finalement le type de société politique.
Oui, mais alors, la différence, je crois, que ce qui explique, d'ailleurs, après toute l'œuvre, je crois, de mon ami Lelu, dont j'ai été un peu, je peux dire, l'inspirateur, il le dit lui-même. Hein. Oui. Bon, c'est dû au fait que, de mon temps, c'était la machine qui était dénoncée. Et alors, ce que j'ai compris très vite, c'est que la machine n'est que le produit d'une machinerie abstraite, d'un esprit d'organisation, de méthode, d'ailleurs largement qu'on ne peut pas distinguer de la méthode scientifique, et que le vrai problème n'est pas posé par cette espèce de concrétisation dans une mécanique, oui. Mais l'esprit qui est derrière. Et alors je crois que c'est ce qui est pour ça que Lulle a théorisé ça très bien en parlant de la technique et de l'esprit technicien plutôt que de la machine.
Que de la machine. Par rapport à bon, ce grand phénomène qui est la guerre de 14-18, vous avez déjà une réflexion sur cette modernité destructrice à travers la guerre. Vous le sentez avant 40?
Oh, ça très nettement, si vous voulez, le... C'était tout simplement la théorisation de cette découverte incroyable des combattants de 14-18, d'être non pas des combattants, non, même plus des soldats, mais de la chair à canon, sur formule, être au fond le matériau d'un espèce de séisme terrible, social, qui est malaxé, qui est broyé dans la terre.
Alors pour cette raison, tout de même, les témoignages qui sont souvent très intéressants, très valables, sur la guerre de 14-18 ont quand même influencé les témoignages, les bouquins.
Oh, ben, oui, je crois que c'est spontanément... Ma réflexion sur le caractère de cette guerre, de la guerre de tranchées notamment, et de ce qu'annonçait aussi la guerre aérienne, hein, qui commençait à s'ébaucher. Mais évidemment, j'ai partagé l'opinion, par exemple, d'un excellent observateur de la guerre comme Norton Crewe, vous savez, qui a fait son bouquin, qui me paraît un grand livre, vous savez, où avec, je dirais, je vous ai un peu critiqué en parlant de police, mais vous savez, avec une minutie policière, il a passé au crible tous les témoignages de la guerre de 14-18 en distinguant ce qui était la part de la mythologie, de la psychologie et de la... vraiment de l'expression de la réalité objective. Il a été, alors il a fait toute une espèce de distinction entre les vrais livres de guerre, les faux, considérant d'ailleurs que les bouquins patriotaires étaient parfois, il y avait aussi des bouquins que vous savez, anti-guerre, qui étaient aussi fabriqués.
Comme le Barbus.
Comme le feu de Barus, il fout dans le même sac d'Orgelès, parce que c'est un type qui regardait les dates de mobilisation, vous savez, le temps de séjour au feu, etc. Et alors, vraiment inspiré par, si vous voulez, en réalité, le scandale de ces massacres, si vous voulez, de la souffrance humaine.
Est-ce que vous avez ressenti, j'allais dire depuis Bordeaux, quand vous nous parliez de votre réaction, sur la, de votre réflexion, disons, rue du Palais Gallien, est-ce que vous avez senti cette modernité envahissante dans votre lieu de vie, d'observation?
Je vous citais la transformation de ma rue, si vous voulez. Oui. Et surtout, la montée, cette espèce de montée insidieuse de la ville, gagnant du terrain, vous savez.
Est-ce que des livres vous ont, j'allais dire, particulièrement marqué, ou des auteurs, ou est-ce que votre réflexion est venue progressivement, à titre, bon, je dirais, de genèse personnelle, vous est venue progressivement de la vie?
Je vous ai cité Huxley.
Oui.
Parce que je crois que s'il est à mettre tout à fait à part. Oui.
Quand est-ce que vous avez lu Huxley, Bernard?
Eh bien, donc ça, j'ai lu toute son œuvre.
Non, mais quand?
Avant la guerre, quand on voit cet excellent roman. Et puis alors, ce que j'ai trouvé de très bien dans Huxley, si vous voulez, c'est un romancier complet qui ne pratique pas, comme les romanciers actuels, le psychologique pur, mais qui saisit l'individu dans la réalité de son environnement social. C'est ce qui l'a mené d'ailleurs à écrire ensuite son grand livre, quoi, sur le... Ah bon Dieu, si je l'oublie maintenant.
Le meilleur des mondes.
Le meilleur des mondes.
Et vous l'aviez lu avant Guin?
Ah oui. C'est 1530, je crois, le meilleur des mondes. Mais j'avais aussi beaucoup apprécié Contrepoint, vous savez. Et alors, par contre, je me suis séparé de lui, c'est qu'une fois de plus, ayant bu le poison, il a fallu trouver le contre-poison. Alors, toute cette dérive religieuse californienne, là, mais complètement étrangère.
C'est complètement étrangère. Voilà. La revue, le mouvement Ordre Nouveau, jusqu'à la guerre, quels sont vos rapports avec les hommes ? Et avec les ouvrages ou les revues?
Avec les hommes, je dirais, le reproche que ce qui pouvait me, à la fois un peu m'attirer, mais en même temps me séparer de l'ordre nouveau, c'était ce que je qualifierais, à la différence du sectaire Mounier et ses amis, une sensibilité de droite, vous savez. Le goût de l'autorité,
le mythe guerrier, l'action, la violence.
Oui, l'influence de Sorel, par exemple, si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier qu'en UCSE, ça n'a jamais été chez les meilleurs, je pense, dans Dieu, c'est très clair. Ça n'a jamais été poussé jusqu'à un totalitarisme de droite.
Bien sûr.
Jamais là.
Ni une politique de droite ou d'extrême droite.
Je cite de Rougemont, très typique, vous savez, de Rougemont qui était jeune, qui avait tout pour lui, qui était beau garçon, qui avait cette tête d'aristocrate par paillot, vous savez, maigre, distingué et sec.
Oui. Hein,
et qui me plaisait parce que c'était la fermeté, si vous voulez, de son attitude dans le...
Antithèse, le caractère ondoyant de Mounier.
Oui, l'antithèse.
Et avez-vous été influencé par Henriette dans ses lectures à elle, allemandes, qu'elle vous aurait fait découvrir?
Sûrement.
Dans cette période, 36, 37, 38, disons 39.
Henriette m'a beaucoup appris, car je suis incapable d'avaler des tonnes de bouquins en vieillissant. Elle m'a beaucoup appris quand elle était jeune, le Goethe, Nietzsche, Kafka, enfin tout
Kafka.
Une littérature allemande.
Rilke, toute une Rilke.
Comme Rilke et Roth, etc.
Elle vous a fait découvrir Nietzsche?
Joseph Roth. Je ne sais pas si je l'ai fait découvrir.
Non, je le connaissais déjà. Oui, oui.
Mais non, je lui ai fait découvrir certains textes, puisque je me rappelle qu'un très très vieux texte de toi, qui d'ailleurs s'est perdu dans les papiers, qui s'appelait La Communication, se terminait par ce très très beau, cette belle fin de Par là le bien et le mal, hélas qu'êtes-vous donc, mes pensées écrites et peintes, Arvasa et Yaden, et à meine geschriebenen und gemalten Gedanken, et tu l'as cité en fin de ton papier.
D'ailleurs, si vous voulez, dans ces fragments que je suis en train d'accumuler, de classer, même de tenter de réunir entre eux, ces pensées spontanées, il y a quelques citations de Nietzsche que je trouve prophétiques.
Vous n'avez jamais été finalement, dans les années 36 à 40, influencé par Heidegger ou...
Moi, je n'ai jamais pu le lire, alors lui non plus.
Lui non plus. Voilà. Non, mais c'est intéressant de préciser.
Jaspers.
Jaspers.
Karl Jaspers.
C'est différent. Oui. Jaspers, notamment, Henriette m'a donné le titre.
Celui Die geistige Situation der Zeit. Ça a paru juste à ce moment-là, en 36-37, la situation spirituelle
du monde moderne. Et
Jaspers.
Comment ça a été traduit?
Tout de suite, hein.
Non.
Très tardivement en France.
Il a été traduit après la guerre, je crois, seulement.
Oui.
Donc Jaspers, qui est quand même un peu. Un existentialiste allemand, peut-être.
Oui, bien qu'en conflit avec Heidegger.
Oui, absolument.
En conflit, en rupture avec Heidegger.
La pensée de Spengler, de...
Aussi.
Ah, j'ai subi la pensée de Spengler, c'est certain. J'ai lu sans trop comprendre et sans trop subir la pensée de Max Weber, voyez.
Vous l'aviez lu un peu, via Henriette ou en
dehors? Non, il l'avait lu, tu l'avais lu en français, Max Weber. Moi, j'ai
traduit
quelques textes. Mais Spengler, parce que dans le déclin de l'Occident, il y a toute une sorte de critique qu'on va retrouver chez Junger et d'autres.
Oui.
Une critique de l'Occident, de la machine, de l'État.
Oui, oui, oui.
Cassirer. Non.
Cassirer.
Non, mais je ne crois pas. Oui, je sais d'accord. Ce que vous voulez dire. C'était le spécialiste de l'Aufklärung. Mais non, mais il ne l'a pas vu,
Non.
Et alors, inversement, dans ces années toujours 36-40, bon, on pourrait parler de deux influences, ou de trois influences. Bon, la pensée, dont l'extrême droite se repaît un peu, la pensée, disons, de Sorel et de Proudhon. Est-ce que vous aviez lu, dans ces années-là, déjà ces textes?
Ah oui.
J'ai lu une partie de l'œuvre de Proudhon, tout en ayant du mal, parce qu'un côté idéologue, un côté utopiste, idéologue, chez Proudhon, qui est très étrange, et que jeune, je faisais des efforts pour suivre, mais ça, il n'y a pas à dire. L'utopie, c'est un domaine, je crois, on pourrait dire, au fait spirituel, au fait économique et social, matériel, financier, mais je ne crois pas, si vous voulez, à ces reconstructions qui permettent de réconcilier l'un et l'autre.
C'est Lefebvre qui a voulu te faire lire Fourier.
Lefebvre.
Oui, plus tard.
Fourier me fait rigoler, surtout quand les baleines finissent par traîner des bateaux dans des océans de limonade, tellement le monde a été amélioré par la bonne solution, quoi. Je trouve ça...
Étiez-vous un lecteur, je dirais, de Sorel, de Georges Sorel, ses réflexions sur la violence, qui était très à la mode.
J'ai oublié maintenant ses réflexions sur la violence, mais c'est toujours la même chose, ce qui m'est très étranger, si vous voulez, aussi bien que l'idéologue, c'est le spécialiste, celui qui écrit un livre sur un détail, vous savez, qui reconstruit inévitablement une sorte d'univers à partir de ça.
Dans la période, on parlait beaucoup, dans divers milieux, de droite et de gauche, de solutions, j'allais dire, politiques, de ressaisissement, de remodernisation de la politique, notamment tous les courants qui valorisaient, à partir de l'exemple ou italien ou du catholicisme social, le corporatisme. Est-ce que vous avez été, intéressé par toutes ces ligues, tous ces mouvements de restauration de l'État, de rénovation corporatiste, sur des modèles...
Bergerie.
Alors il y a eu le bergerisme, il y a eu aussi le bergerisme, avec son courant, son journal.
Le seul qui me paraissait intéressant, mais sans me conduire à une participation quelconque, c'est effectivement Bergerie. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Alors, oh mon Dieu, cet autre esprit critique, considéré comme non conformiste à l'époque, le locataire de l'appartement du Palais Royal qui allait voir
Emmanuel Berle, le fondateur de Marianne.
Bergerie, c'était un peu le même secteur, dans un champ très différent. Je pense aussi au Crapouillot, vous voyez, ces francs tireurs dont certains ont mal fini parfois.
Le Corbusier, vous n'en avez jamais entendu parler?
Aussi, et je n'avais aucune sympathie pour ce genre d'architecture. Je dois dire que je considérais, et la suite l'a démontré, mener à des sortes de construire, des sortes de termitières locatives.
Vous ne l'avez pas connu personnellement dans des mouvements normistes où il était?
Non, je dois dire. Je n'ai eu aucun rapport.
Alors, il y a influence intellectuelle qui soit surgie de votre formation de lycée ou d'université, soit de vos lectures, qui est le monde un peu de l'humanisme français. Bon, vous, vous excluez Barrès, Péguy, tous les phares de la génération du tournant du siècle ou de l'après-guerre, nationalistes et grandsouillards, je dirais.
Oh.
Ceux-là, vous les excluez.
Ça, c'était évident.
Mais alors, cet humanisme français, bon, on a parlé entre nous de Montaigne, de Montesquieu. Est-ce que vous l'aviez lu jeune?
Eh bien, je dois dire que, toujours mauvais lecteur, je n'ai lu très attentivement Montaigne que pour écrire mon... D'abord, tout simplement, parce qu'il y avait l'obstacle du vieux français.
La langue. Mais Montesquieu, tu connaissais l'esprit des lois.
J'ai lu l'esprit des lois, j'ai lu Grandeur et décadence des Romains. Et alors, ce qui m'avait séduit dans Montesquieu, d'ailleurs, c'est outre le réalisme dont il fait preuve dans sa, si vous voulez, sa,
si tu nous faisais le thé,
sa séparation des pouvoirs. Dans la différence de nature de régime, je dirais que c'est son côté empirique, comme Montaigne.
Oui,
parce que Montesquieu, c'est pas du tout un idéologue qui reconstruit un système parfait.
Réel,
oui. Il s'interroge pour savoir
sur
le
les systèmes réels, oui.
Entre un système, le sol, le climat, le pays, etc. C'est à ce titre, et puis je trouve que finalement, c'est le, à la différence de Rousseau qui est parfois un peu déraillé, mais moins de chez ses successeurs, Montesquieu me paraît, au fond, avoir été assez près de la réalité pour être finalement l'inspirateur de la seule constitution qui a duré jusqu'à nos jours, c'est-à-dire l'américaine, qui est strictement fondée sur la séparation. Tandis qu'en France, ça n'a jamais marché.
Au niveau de cette pensée de Montaigne, vous ne l'aviez pas lu à l'époque. Vous l'avez lu
plusieurs
après.
Réussi.
Un
je,
peu déjà.
J'avais essayé de
des
extraits, pénétrer,
des essais,
si
oui.
vous voulez. Alors, j'avais une connaissance générale. Il y a une chose qui me paraît très importante dans Montaigne, si vous voulez, c'est ce constat fondamental que l'universel vraiment vécu et connu, c'est dans un homme qu'on découvre l'humanité et que le premier, c'est tout bêtement soi-même. Si vous voulez, c'est ça, je crois que la découverte et le, même la religion, eh bien, c'est, si vous voulez, l'affaire d'un homme pour commencer.
Est-ce que vous aviez été influencé, marqué par, j'allais dire, la culture lycéenne de la littérature française, où on vous faisait découvrir des auteurs, où on valorisait éventuellement des auteurs comme Descartes et Pascal? Est-ce que vous étiez déjà pénétré des textes, ou indifférent, ou lointain par rapport à ces références de cet humanisme français, du « je pense donc je suis », ou du « je pense, je m'effraie, je m'interroge, mais je suis moi-même finalement le centre ». À travers mes émotions et au niveau pascalien et ma réflexion sur les contradictions de la nature humaine, je suis moi-même finalement le centre de la, d'une solution.
Ce n'est pas venu de ce côté. Au contraire,
oui.
Je vous l'avais déjà dit,
oui.
L'enseignement que les mauvais élèves que
vous
fus,
étiez, oui.
a été a littéralement stérilisé tout ce qu'il peut y avoir de vivant et de riche dans cette forme de culture. Je ne peux pas, je n'ai pas pu. Maintenant, ça revient un peu. Dans ma jeunesse, je ne pouvais pas ouvrir Corneille ou Racine, décortiquer
Descartes,
virgule
Pascal.
Après point virgule, sans bâiller.
Avez-vous été influencé, jeune, donc jusqu'aux années de la guerre, disons, de la Seconde Guerre, par l'humanisme de la Renaissance? Vous étiez historien. Est-ce qu'il y a eu un éveil? Je pense à Erasme, je pense à tous ces hommes, bon, à Rabelais, dont a parlé Lucien Febvre, ces incroyants qui étaient chrétiens et qui découvraient en même temps, je veux dire, le monde des Grecs.
Oui, j'étais influencé par, notamment d'abord par sympathie instinctive. J'ai lu tout Rabelais quand j'étais jeune, vous voyez. Ça me passionnait. Maintenant, je ne pourrais pas le relire, probablement. Mais j'étais aussi influencé par le fait que mon maître, le seul pour lequel j'avais de l'estime, c'était Renaudet, et que Renaudet était un spécialiste de cette période,
oui, qui faisait des cours
fort intéressants sur humanisme et réforme. Le courant évangélique, vous savez, j'ai de la sympathie pour cette période, parce qu'après, on peut dire que la société s'est gelée un peu. C'est avec la contre-réforme et l'âge classique.
Ah ben oui. Et les Grecs, les anciens, parce que dans votre, j'allais dire, votre philosophie générale, bon, on essaie de chercher des racines. C'est un peu une façon de vous interroger, de caractériser votre pensée. Il y a cette idée du tragique grec que l'on trouve dans la tragédie grecque, quand les Grecs quittent les dieux, bon, et qu'ils se trouvent dans une société des hommes à construire une éthique, une morale, à définir les règles d'une politique qui n'est pas fondée sur un transcendant, comme le sera le christianisme. Est-ce qu'il y a un humanisme tragique des Grecs dans la première naissance de la réflexion, de la raison, de l'autonomie du sujet, du « je pense, donc je suis » ou de cet homme qui se trouve seul? Est-ce qu'il y a pour vous des éléments de référence? Vous dites à l'inverse que vous êtes post-chrétien ou que vous vous situez par rapport à la culture chrétienne. Alors, la culture grecque, ce n'est pas encore la culture chrétienne. Non. Est-ce qu'il y a des racines qui vous influencent déjà dans vos lectures?
Ma pensée, je crois, la plus profonde, c'est que il faudrait pas, autant je suis conscient, si vous voulez, autant je me dis post-chrétien, je suis conscient du rôle qu'a joué la révélation chrétienne dans ma pensée. En même temps, je suis un héritier des Grecs, je suis un héritier des Romains, quoi. Je suis un héritier, je dirais, des premières angoisses de l'homo sapiens dans sa caverne, vous voyez. Mais il est certain que l'accent est mis sur le christianisme et en même temps sur cette espèce de fusion qui s'est opérée entre le christianisme et la pensée gréco-romaine. Parce que même Rome continue au niveau culturel, la Grèce, si vous voulez, par exemple, Lucrèce est un Grec dans le sens, son angoisse devant le vide de l'univers, c'est celui de Pascal, déjà. Vous voyez, seulement il est athée.
Vous nous avez aussi longuement parlé de, je veux dire, je résume, des tragiques russes, des humanistes, des personnalistes. Bon, on a cité Berdiaïev, Dostoïevski, Tolstoï peut-être.
Oh, oui. Tolstoï sûrement.
Vous l'aviez lu jeune ou c'est a posteriori?
Je l'ai lu et relu. Ce qui me frappe, et un des gros reproches que je fais au communisme, c'est d'avoir enfermé la Russie dans un frigo alors qu'elle était en train de donner l'exemple d'une pensée beaucoup plus vivante que celle des intellectuels et des littérateurs français. Si vous voyez, ce qui me frappe, c'était il y avait en Russie une gestation qui allait faire d'elle, je peux dire, ce que l'Amérique est devenue par la suite, c'est-à-dire l'extension de ce qui avait droit dans les cultures européennes à l'ensemble de la planète, à l'interrogation devant la transformation de la société. Les grands Russes ne font pas de... c'est pas des littérateurs au sens français du terme, tout simplement, ils disent ce qu'ils pensent. Que ce soit Tolstoï, dans l'interrogation dans la mort, par exemple, la mort d'Ivan Ilitch, c'est un texte. C'est l'équivalent pour moi un peu de, si vous voulez, de Bach pour vous, des textes où la rencontre avec le paysan dans la neige, maître et serviteur,
si vous voulez. C'est un peu la même chose.
Vous le lisiez jeune ou est-ce que...
Ah oui.
Vous en avez parlé, Henriette, de ces textes, de ces amours
oui,
de lecture.
Après. Non, ce que nous avons lu dans notre jeunesse, c'est Anna Karenine, Guerre et Paix, et ces petits récits de Tolstoï, je crois que c'est après. après la guerre.
C'est surtout après la guerre, oui.
Oui. Surtout après la guerre.
Ce qui, ce qui a été très important pour moi, puisque vous m'interrogez sur mes origines culturelles, c'est aussi Shakespeare, les 12 volumes.
Ah oui.
De la... Par, je dirais, par haine de Racine et du Corneille qu'on avait
des lycées, infligés dans les lycées, ouais. Avec des...
si vous voulez, la vie par rapport à, au squelette.
Bernard, un auteur auquel vous faites souvent référence dans votre livre sur l'État, et quand même qu'on lisait très peu à l'époque, c'est Tocqueville.
Oui.
Bon. C'est sûr.
Alors, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette rencontre quand même? Quand est-ce que vous l'avez découvert? Comment?
Ah, ça date d'avant la guerre, et c'est dû au fait que la bibliothèque de quelqu'un qui voulait passer pour cultiver comprenait les œuvres de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, et les plusieurs tomes de la démocratie en Amérique. Et c'était dans la bibliothèque de mon grand-père, qui était un banquier.
Grand-père.
Peu.
Hein? Le grand-père.
Le grand-père.
Oui.
J'en ai fait cadeau. C'est à Simon que j'ai fait cadeau de ce Tocqueville.
Super.
Et dans ma génération, Tocqueville était complètement ignoré. Parce que ça forçait, si vous voulez, à remettre en cause les idées qu'on avait sur la Révolution, l'Ancien Régime, l'opposition et la démocratie en Amérique, également tout le côté critique. De...
C'est finalement l'ouvrage qui, peut-être avec l'esprit des lois que votre grand-père devait avoir dans sa bibliothèque aussi, Montesquieu.
Bon, et tout Montaigne.
Et tout Montaigne.
Plusieurs éditions.
Plusieurs éditions, peut-être d'ailleurs des anciennes éditions, non?
Non, il n'avait pas.
19e alors.
C'est trop chaud.
On ne peut pas dans ces détails.
D'accord. Et si, il avait plusieurs éditions.
Il avait plusieurs éditions. Là, j'ai conservé la plus ancienne, mais elle n'est pas vieille. Elle date de peut-être du Second Empire.
D'accord.
Oui, c'est d'ailleurs via.
C'est le docteur Armand.
Pierre, c'est Pierre qui. C'est par Pierre qu'on l'a eu cette édition de Montaigne, je crois.
Oui,
par ton frère.
Parce que ça ne m'intéressait pas.
Au niveau, disons, de la. Bon, de votre formation d'historien, parce que vous étiez quand même un jeune étudiant historien.
Oui.
Est-ce que vous avez eu une sorte d'intérêt, ou voire de passion, pour la Révolution française? Ces auteurs, ces mythes.
Eh bien, si vous voulez, il y avait deux choses. Il y avait une part, si vous voulez, je peux dire, mon inconscient de gauche, si j'ose dire, très conscient d'ailleurs, me portait à subir la grandeur de cette révolution. En même temps que que je prenais conscience de ces délires, si vous voulez, de ces mensonges. Il faut bien, un délire, c'est un mensonge.
Oui.
Voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis alors, le côté, si vous voulez, pour quelqu'un de jeune, le côté l'aventure révolutionnaire, pourrait-on dire, c'est très séduisant avec ces armées de locuteux qui s'emparent de tous ces riches et puissants royaumes d'Europe, quoi. Mais je n'ai jamais eu la moindre sympathie pour Napoléon.
Voilà, j'allais dire.
Ah, j'allais en parler.
J'allais parler de Napoléon, parce qu'alors là...
Alors, j'ai toujours considéré que c'était, si vous voulez, on peut lui coller l'étiquette de génie, je crois qu'il la mérite dans son secteur, mais alors, d'une inhumanité totale. Et que ce qui est scandaleux, ce n'est pas Napoléon, mais ces masses humaines qui ont adoré ce tueur.
Et les élites, et un homme comme Heine qui est porté au nu.
Tous les romantiques,
d'une façon générale.
À quel point les intellectuels sont des bébés quand il s'agit de faits politico-militaires, hein. Cher Napoléon, que c'est que vous sortez de ces phrases? Pour moi, les hommes sont comme des pions sur les échecs. Je ne compte pas les morts. Voyez-vous, disait tout ça en bon corse à l'esprit réaliste. Il fallait vraiment, il faut que les hommes admire en réalité la puissance, vous savez.
Il n'y a jamais eu, bon d'ailleurs Tocqueville est une référence intéressante sur la notion de démocratie, de société civile, d'organisation à travers le modèle américain et de son grand voyage, d'organisation par des citoyens, de la prise en main de l'État, du pouvoir à dimension humaine. Bon, il n'y a jamais eu chez vous de fascination du politique, de la politique, j'allais dire du mythe des chefs, du mythe qui était finalement une sorte de solution de rêverie pour beaucoup de jeunes de votre génération. Beaucoup ont cru à la modernité politique, à la politique.